Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Georges Bataille n'est pas qu'un philosophe, qu'un mystique, qu'un théoricien du sacrifice ou qu'un écrivain de récits érotiques. Il n'est pas qu'un personnage sulfureux, partagé entre un métier de bibliothécaire très rangé et une vie nocturne des plus animées. Il est impossible de réduire Bataille à quoi que ce soit, tant son intellect et sa soif de savoir le fit déborder sur autant d'objets improbables. La méditation, les yogis, le gros orteil, ou encore l'histoire de l'art. Car l'auteur de l'expérience intérieure est aussi un théoricien et un historien de l'art, sur lequel il s'appuie pour délivrer de fascinantes théories philosophiques, mêlant la réalité historique et sa vision singulière de la représentation. Ce court entretien au micro de Pierre Barbier, dans La vie des lettres, daté de 1955, sert de piqûre de rappel. Le génie de Bataille est versatile et s'étale à son gré sur un grand nombre de plans inattendus de la connaissance. Il évoque ici son livre Lascaux ou la naissance de l'art, sorti la même année, où il voit ses représentations primitives comme un miracle à célébrer. Si les hypothèses scientifiques que Bataille formule sont depuis longtemps dépassées, la hardiesse d'une pensée qui allait toujours à contre-courant de la doxa, elle, est restée intacte.
Georges Bataille vient de publier une étude extrêmement importante sur les peintures historiques pour l'album que Albert Skira a publié, qui a pour titre « Lascaux ou la naissance de l'art ». C'est un luxueux album avec des photos en couleur de Hinz, qui est suisse, et de Emer, qui est un photographe italien.
Depuis des dizaines de millénaires, ici et là dans le monde, notamment en France, en Espagne, en Italie, dans les régions arctiques aussi, des fresques polychromes recouvrent les parois de certaines grottes. Mais c'est très probablement en France, en Dordogne, à Lascaux, tout près de Sarlat, de Montignac, que se trouvent les plus anciennes et aussi les plus riches d'entre ces peintures. Considérant Lascaux, l'extraordinaire décor de Lascaux, comme le premier signe sensible que l'homme ait laissé de son irruption dans le monde, sensible en ce qu'il atteint la sensibilité pleinement, avec la plus grande force, vous venez, Georges Bataille, de faire paraître aux éditions Albert Skira Lascaux ou la naissance de l'art. Un très gros ouvrage et surtout un ouvrage très important pour l'histoire de l'art, pour la conscience, la prise de conscience de l'art. Je voudrais vous demander à vous, auteur d'ouvrages philosophiques, attaché très étroitement à la poésie, à la mystique, à l'érotisme, ce qui vous a amené face à ces peintures, dont la découverte est très récente, puisqu'elle remonte à 1940, et ce qui vous a arrêté par-delà leur apparence picturale, ce qui vous a arrêté au regard de ces fresques.
Je me suis de tout temps intéressé à l'histoire de l'art. Ça a peut-être été là le premier objet de mon intérêt. Et en particulier, l'après-histoire m'avait beaucoup frappé pour l'ensemble de questions qu'elle pose, qui d'ailleurs touchent de près à la philosophie. J'ai tenu à m'en occuper de nouveau à partir du moment où l'on a découvert cette grotte extraordinaire de Lascaux, qui renouvelait la question, tout de même, à certains points de vue, qui, en tout cas, donnait à l'ensemble de la peinture préhistorique un aspect extrêmement émouvant qu'il n'avait pas pu avoir depuis lors à cause de l'état relativement moins bon des peintures qui avaient été découvertes jusqu'à la date de 1940, où des enfants se promenant dans les bois ont fini par se glisser dans un trou qui avait été laissé par un arbre déraciné. Et ils se sont introduits là. Un jour, ils ont fait une petite expédition pour explorer le trou. Ils avaient même pris une lampe. Et au bout d'un certain temps, à leur stupéfaction, ils ont vu apparaître toutes sortes de figures extraordinaires. Et il ne leur a fallu que quelques minutes, à la lueur d'une lampe assez misérable, pour apercevoir qu'ils avaient vraiment trouvé quelque chose de si extraordinaire qu'ils n'ont plus eu qu'une possibilité, c'est de danser, comme le disait l'un d'entre eux, une véritable danse de guerre, comme des Indiens sur le sentier de la guerre.
Pourriez-vous nous préciser, ou plutôt nous résumer quelques-unes des considérations qui a pu susciter en vous votre tête-à-tête avec les images enchevêtrées de la grotte de Lascaux? Et tout d'abord, qu'est-ce qui vous a arrêté personnellement? Qu'est-ce qui vous a touché dans ces peintures?
Évidemment, j'ai été arrêté par leur extrême beauté. Mais d'une façon plus personnelle, la question qui m'avait arrêté dans l'art préhistorique était la disproportion extraordinaire entre la beauté des représentations d'animaux et l'insignifiance, pour ne pas dire le côté caricatural, des représentations de l'homme. C'est poussé à un point extraordinaire un peu partout, cette disproportion apparaît. Elle est très sensible, en particulier à Lascaux, où toutes les représentations sont claires, où la seule représentation d'homme qui s'y trouve est également très claire, mais comme dessinée par un enfant.
Il faudrait souligner ici, et ainsi d'ailleurs que vous le faites longuement dans votre livre, il faudrait faire remarquer que l'homme préhistorique, l'homme des cavernes, artiste naissant, homme naissant, dès l'instant où il ne s'efface plus, où il ne s'incline plus devant l'animal, dès l'instant où il cherche, où il accepte de se représenter lui-même, cet homme dissimule ses traits, les masques sous ceux de la bête, comme s'il semblait réellement soucieux de déguiser, de cacher un visage qui aurait perdu tout lien avec l'animalité. À Lascaux, la seule représentation humaine que l'on rencontre est celle d'un homme à tête d'oiseau.
Il est tout à fait frappant, en effet, à mon avis, que justement dans les rares représentations d'hommes que l'on trouve, l'animalité déteigne. C'est un petit peu comme si la figure humaine n'avait pas pu être représentée directement, sans hésitation. Un homme, oui, mais on lui donnait une tête d'animal pour que cela passe. Il y avait en somme une sorte de tabou de la représentation humaine, autant du moins qu'on peut le croire, étant donné le peu de renseignements, le peu de documents positifs que nous avons sur cette période. Mais il nous reste tout de même cette opposition entre l'homme et l'animal qui est ce à quoi nous pouvons nous raccrocher pour tenter d'interpréter ces peintures. En effet, ce qui me paraît tout à fait frappant, c'est que cela suppose une toute autre idée de l'animalité, une toute autre idée de l'humanité que la nôtre. Et je crois qu'il faut rapprocher les idées qu'avaient ces peuples très primitifs, qui étaient des peuples de chasseurs, des peuples de chasseurs actuels. Si, lorsqu'on a interrogé tel peuple de chasseurs de l'Amérique du Nord, à une date encore récente, lorsqu'on leur demandait ce qu'ils pensaient qu'étaient les animaux, ils répondaient que les animaux étaient comme des hommes, mais plus sains. Plus sains, c'est-à-dire plus sacrés, plus chargés de valeurs religieuses. Ceci correspond d'ailleurs à tout ce que nous pouvons savoir par l'histoire des religions, qui nous montre que, par exemple, en Grèce ou en Égypte, les divinités animales ont précédé les divinités humaines. Il y avait un pas à franchir entre l'homme et la divinité qu'il n'y avait pas à franchir entre l'animal et la divinité. L'animal était quelque chose qui a donné primitivement aux hommes le sens du divin. Cela peut paraître étrange, mais tout concorde à cet égard.
C'était un entretien de Georges Bataille au micro de Pierre Barbier dans La vie des lettres en 1955, à propos de son livre Lascaux ou la naissance de l'art.